La bataille de Waterloo, d'Alexandre Langkielland. Chapitre 1er. Être amoureux n'est point chose désagréable en soi, sans compter que cela se trouve être d'accord avec les us et coutumes. Comment on peut se livrer de nos jours à ce divertissement, sans avoir trop à craindre les sévérités paternelles, et que rien n'est plus facile que d'être fiancé, état qui tient à la fois du mariage et du couvert mis dans une bonne famille. Si ce n'est de se défiancer, nul ne sera surpris d'apprendre que Hans se sentait le plus infortuné des hommes. Il n'était pas le moins du monde amoureux. Depuis longtemps, il parcourait les rues, attendant avec une impatience mal déguisée ce qu'on est convenu d'appeler le coup de foudre, au dire des experts, la véritable forme du véritable amour. Mais rien ne venant, quoiqu'il fût étudiant depuis une année, il se disait « L'amour est une loterie. Pour gagner, il faut y jouer. » Toute l'affaire est de tendre la main à la fortune, ce qu'assurent les collecteurs dans leurs prospectus. Il observait donc sans relâche et analysait les moindres mouvements de son cœur. Semblable au pêcheur à la ligne, dont toute l'attention est dirigée vers le flotteur, le cousin Hans retenait sa respiration dès qu'il apercevait une dame, se demandant s'il n'allait pas ressentir cette secousse particulière, qui est l'essence de l'amour vrai, cette secousse qui refoule tout le sang vers le cœur, pour le faire remonter aussitôt à la tête qu'il colore d'un beau rouge. Mais rien ne bougeait, seuls ses cheveux étaient rouges. Les plus vils flatteurs de Hans n'osaient les taxer de blond. Quant à la figure, elle demeurait pâle comme ci-devant. Le pauvre pêcheur longeait un jour les remparts. Fatigué, il finit par prendre place sur un banc, d'où il apercevait d'infortunés soldats qui, exposés à un ardent soleil, cherchaient à se maintenir sur une jambe, la poitrine en avant, et les mains sur les hanches. « Stupide, » se disait le cousin Hans, « trop coûteux pour notre petit pays d'entretenir de pareils acrobates. N'ai-je pas lu ces jours-ci qu'il faut à cette soi-disant armée 1500 boîtes de cirage, 600 brosses à chaussures, 3000 aunes de galons d'or et 8640 boutons de métal? Ne vaudrait-il pas mieux économiser galons et boutons et en consacrer la valeur à éclairer les masses ?» On voit que Hans était infecté des idées subversives modernes, lesquelles ont pénétré jusqu'en Norvège et y sapent les bases mêmes de l'ordre social. « Au revoir, » fit une voix de femme derrière lui. « Au revoir, » répondit une voix de basse. Hans, étant retourné lentement car il faisait chaud, aperçut un vieux grognard à redingote noire boutonnée jusqu'au cou et ornée de l'ordre de l'épée, le cou enveloppé dans une cravate noire aux replis innombrables. Ce grognard, ayant fait un signe d'adieu à une jeune dame qui s'éloignait vers la ville, continua sa promenade sur les remparts. Bien que harassé, Anne suivit des yeux la jeune dame. Elle était petite et accorte. Sa démarche rappelait celle des sylphes. Aux yeux de Hans, cette démarche était une qualité de premier ordre, car il appartenait à ces natures sensitives et perspicaces qui jugent de la valeur d'une femme rien qu'à la façon dont elle se transporte d'un lieu à un autre. Après avoir fait quelques pas, la jeune dame se retourna, évidemment pour saluer encore une fois le vieil officier, mais par hasard ses yeux rencontrèrent ceux de Hans. C'est à ce moment enfin que se réalisèrent ses ardents désirs. Il mordit à l'hameçon, le sang lui monta à la tête, ainsi que le comporte l'étiquette en pareil cas, le souffle lui manqua, les frissons le prirent. Bref, il se manifesta en lui tous les symptômes qui trahissent l'amour vrai, au dire des poètes et prosateurs expérimentés. Pas une minute à perdre. Prenant à la hâte ses gants, sa canne et sa casquette d'étudiant, qu'il avait déposés sur le banc, Anne s'élança à la poursuite de l'objet aimé. À l'étranger, où la société est si corrompue, les choses ne se passent point ainsi. Tout y est si bien réglé qu'un jeune homme bien élevé craindrait de suivre une dame, et les femmes vertueuses qu'on trouve dans la dite société ne verrait guère de bon œil qu'un être masculin se permit d'emboîter le pas derrière elle. Mais dans notre société si pure, si collémentée, nous accordons plus de liberté à la jeunesse, grâce surtout à la sévérité de notre morale. C'est pourquoi Hans n'hésita pas un instant à écouter la voix de son cœur. C'est pourquoi aussi la jeune dame, voyant les ravages qu'avait exercé un regard destiné au vieil officier, ne trouva pas la situation trop désagréable. Les passants qui, naturellement, s'apercevaient de quoi ils retournaient, le cas de Hans est un des rares où les acteurs se figurent n'avoir pas de public, était d'avis que cette chasse ne manquait pas d'intérêt. Ils se détournaient en riant, sachant tous ou bien qu'il ne s'agissait que d'un divertissement de jeunesse, ou bien que cela mènerait à des fiançailles. Or, quoi de plus beau que des fiançailles ? Tandis que le chasseur et le gibier descendaient la rue à distance respectueuse, tantôt sur le même trottoir, tantôt chacun sur le sien, Hans eut le temps de réfléchir. Pour ce qui était de l'amour, rien de plus clair, les symptômes étaient là indiscutables. Hans était pris, et bien pris, dans les réseaux de l'amour véritable, et il en éprouvait une joie des plus vives. Son allégresse était si grande que lui, peu endurant de sa nature, subissait en souriant les bourrades, les invectives et autres désagréments qui sont inévitables lorsqu'on arpente à pas pressés une rue fréquentée, le regard obstinément fixé sur un objet. L'amour était là, plus de doute. Quels étaient le nom et la position de l'être adoré? Là-dessus, pas de doute possible non plus. Ayant fait une promenade avec son vieux père, elle avait découvert subitement que, midi ayant sonné, il était temps de songer au dîner, car évidemment elle était bonne ménagère, et plus évidemment encore orpheline. Cette dernière conjecture était peut-être la conséquence des terreurs qu'inspirent les belles-mères, au dire de tous les bons écrivains, mais cela n'en diminuait aucunement la probabilité. Restait donc à découvrir sa demeure et son nom, puis à songer aux moyens de faire sa connaissance. Le premier de ces points était un jeu d'enfant, car elle rentrait. Son nom, il l'apprendrait de quelques voisins, et quant à la connaissance, sans difficulté, pas d'amour véritable. Au moment où la chasse était dans toute son ardeur, le gibier s'engouffra dans une porte cochère. Il était temps, car à vrai dire, le chasseur se sentait un peu las. Ce fut donc avec un soupir de soulagement qu'il lut sur la porte numéro 34. Puis il fit quelques pas afin de dérouter un espion possible, s'arrêta près de la colonne d'une lanterne à gaz et reprit haleine. La journée était chaude, nous l'avons dit, puis la passion ne rafraîchit guère. Hans se trouvait donc en nage, et sa toilette n'était pas sans avoir souffert un peu du zèle qu'il avait mis à sa poursuite. Il se prit à rire de lui-même, tout en s'épongeant la figure, en arrangeant sa cravate, et en redressant son col de chemise qui avait fondu du côté du soleil. Mais ce sourire était celui des anges. Hans était dans cette disposition d'esprit où l'on ne voit rien du monde extérieur, et il murmurait par-devers lui « L'amour supporte tout ». « Et transpire beaucoup aussi », fit un gros homme dont le gilet blanc vint s'interposer entre l'horizon et Hans. « Ah, c'est toi, mon oncle, » répondit Hans, un peu déconcerté. « Mais oui, si j'ai quitté l'ombre, c'est uniquement pour te préserver d'un coup de soleil. Suis-moi. » Tout en marchant, le neveu dit « Sais-tu qui habite le numéro 34 ?»« Pas la moindre idée, mais gagnons l'ombre. » Il y avait deux choses que l'oncle Frédéric ne pouvait supporter, la chaleur et le rire. La chaleur vu sa corpulence, le rire à cause de ce qu'il appelait sa propension apoplectique. « Du reste, » continua-t-il, « une fois à l'ombre, je sais qui est le propriétaire du numéro 34. C'est le capitaine Schrapp. Le connais-tu ? » ?»« Quelque peu, comme tout le monde. Chacun sait qu'il arpente chaque jour les remparts. C'est là que je l'ai aperçu. Quel intéressant vieillard. Je brûle de faire sa connaissance. Voilà un vœu facile à réaliser. Tu n'as qu'à te poster quelque part sur la promenade et à tracer des lignes sur le sable. Il ne manquera pas d'accourir. » »« D'accourir ? Mais oui. » Puis il t'adressera la parole. « Mais prends garde, c'est un homme dangereux. Bon, il a failli me coûter la vie. » »« Allons donc. Par son bavardage, entends-tu ? Oh, il ne sait que deux histoires, » continua l'oncle. « L'une dure une bonne demi-heure et a pour sujet les manœuvres de Scanny. L'autre, la bataille de Waterloo, prend parfois une heure et demie, deux heures même. Je l'ai entendu trois fois. » Et l'oncle, de pousser un profond soupir. « Mais sont-elles donc si terribles, ces histoires, fit Hans ? » À la rigueur, on les supporte une petite fois. Et si le capitaine met le grappin sur toi, observe bien ce que je vais te dire. Admettons que tu aies affaire à la courte, celle de Scanny. Tu n'as qu'à remuer tour à tour la tête de haut en bas et de droite à gauche, puis de gauche à droite, ce qui signifie soit que tu approuves, soit que tu exprimes des doutes. Quant au théâtre des opérations, tu t'y orienteras facilement. Le théâtre des opérations ? Mais oui, il dessine toutes les manœuvres sur le sable. Rien de plus facile du reste que de suivre, si on fait attention à A et à B. Sur ce point seulement, garde-toi de te tromper. S'impatiente-t-il lorsqu'on ne comprend pas? Non, au contraire, mais il recommence. L'épisode le plus important des manœuvres, c'est le mouvement que le capitaine exécuta malgré les ordres du général et qui mit la confusion dans les rangs des deux armées. C'est, entre nous soit dit, ce trait de génie qui a valu au capitaine l'ordre de l'épée, lequel ordre n'avait d'autre but que de l'amener à prendre sa retraite. Lorsqu'il en sera à cet épisode, il faudra donc appuyer vivement en disant « Naturellement, la seule manœuvre possible, la clé de la position. N'oublie pas, la clé. » « La clé, » répéta Hans. « Mais si la malchance veut que tu tombes sur l'histoire de Waterloo, il n'y a que deux remèdes, garder un silence obstiné ou prêter une oreille attentive. Un jour, il m'a fallu subir 1 heure et demie de plus de Waterloo, pour la seule raison que, désireux de montrer combien je dominais la situation, j'avais fait avancer les dragons de Kellerman en lieu et place des cuirassiers de Milo. Comment tu as fait avancer des dragons ? Tu comprendras cela quand tu seras aux prises avec la longue histoire. Avant tout, ajouta l'oncle Frédéric d'un ton solennel, prends garde à Blücher. Blücher ? Oui, Blücher. Je ne te dis que ça. Mais à quoi bon te parler de ce vieil original de capitaine ? Que diable as-tu à démêler avec lui ? Se promène-t-il tous les matins ? De 11 à 1 heure, sans faute, et l'après-midi de 4 à 7. Mais quel intérêt ? A-t-il beaucoup d'enfants ? Une fille unique. Mais encore une fois, adieu, mon oncle, mes livres m'appellent. Un instant, ne te verrai-je pas ce soir chez tante Marie ? Je suis chargé de t'inviter. Merci, je n'ai pas le temps. Elle a invité plusieurs jeunes filles, cria l'oncle Frédéric à son neveu, qui s'éloignait comme si la tarentule l'eût piqué. Drôle, très drôle. Évidemment, il est fou ou amoureux. Lorsque je l'ai rencontré devant le numéro 34, il était planté comme un terme et murmurait le mot d'amour. Et son intérêt pour le vieux Schrapp ? Serait-il féru de Mademoiselle Betty ? Non, non, c'est impossible, il n'est pas si bête, pensait l'oncle Frédéric en regagnant son domicile.